Pluriel Gay.
Voilà, on est à l'antenne. Merci Bernard. Alors ça a été un peu épique ce soir, ma chère Laura.
Oui.
Bernard était coincé dans le tram.
Ouais. Voilà.
Il était coincé dans le tram, donc on ne savait pas si on allait avoir un technicien ce soir, et c'était embêtant.
Le tram a fait nous voler, Bernard.
Ouais, mais il est arrivé quand même.
Tel Zorro.
Ouais, tel Zorro, il est venu nous sauver la situation. Laurence, bonsoir.
Bonsoir Gérald, bonsoir tout le monde.
Comment allons-nous ce soir?
Écoute, ça va pas mal. D'accord. Encore une légère petite toux d'automne, mais
d'accord,
à part ça, tout va bien.
Tu seras guérie mercredi prochain, puisque tu es la principale astigmatrice d'un grand événement.
Oui.
Voilà, genre il y a une explosion.
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ma bague, pardon.
Ah d'accord. T'as votre bague, ta bague?
Oui, elle est sur le mur droit, je vais la changer.
Ah d'accord, une bague explosive.
En or massif.
Ok. Donc du coup, nous avons entendu la voix de Célia, des Déracinés.
Oui.
Voilà. Nous avons... Je commence par les filles dans le lit. Hein. Et je veux dire, ça ne heurte pas ta sensibilité.
Absolument pas.
Et Katerina avec un E au départ. Et Katerina, donc du coup, qui est doctorante à Lyon 2. Ça va jusque-là?
Parfait.
Je ne suis pas trompé. Bon, très bien. Alors, Tanguy, du Fondet, nous on le connaît.
Ça fait longtemps qu'on ne l'avait eu.
Oui, c'est vrai, c'était fait rare.
Oui.
C'était fait rare, pourtant, un tapis rouge lui avait été déployé à la radio.
C'est vrai.
Il n'a pas profité de l'occasion.
Non. Mais j'espère que si l'occasion se représente, peut-être qu'effectivement les choses étant différentes aujourd'hui,
d'accord,
on pourra
maintenant
profiter.
C'est trop tard.
Voilà. Alors de toute façon.
Bon, bah, tant pis.
Alors du coup, Tanguy, toi, tu es ici au titre des Invisibles de Stonewall.
Absolument.
Que nous avons déjà reçu.
Oui.
Deux fois, je crois même. Tu étais venu deux fois ici.
Bah pour quelques événements, oui, de l'association sur l'accueil de Sophie Labelle avec les enjeux transcontemporains.
Mmh.
Il me semble qu'on avait parlé également de la conférence sur le transféminisme avec Karine Espinera et Chrysaline. Et voilà, et puis d'autres actions qu'on avait menées aussi. On en avait profité pour présenter un peu tout ça.
Alors donc, les Invisibles de Stonewall, pour les auditrices et les auditeurs qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, peut-être toi Laurence,
oui,
tu te souviens un petit peu, je sais pas si tu ils étaient venus déjà, tu étais là parce qu'elle a été absente un certain temps.
Oui.
Non, j'étais pas là. J'ai suivi via Facebook l'actu, c'est une association.
C'est ça.
Voilà. L'actu de les thèmes principaux défendus par l'association, mais non, je n'étais pas là.
Donc ça va être l'occasion de reparler un petit peu de l'association Les Invisibles de Stonewall. Alors, Les Invisibles avec UN au départ. Voilà.
Ouais.
Alors, Les Invisibles de Stonewall, ça part du principe que Stonewall a été fait par une catégorie de personnes qui ont été un petit peu occultées dans l'histoire officielle ensuite. Voilà. Les premières pierres n'ont pas été jetées par certaines personnes, mais par d'autres qui ont plutôt été mises un peu à l'écart à un moment donné, pour des raisons, on ne sait pas trop, politiquement correctes ou pas, mais vous le savez, je pense, les Invisibles de Stonewall, en fait, vous vous présentez aussi, bon, c'est une association qui est au sein de Lyon 2, on est d'accord, on peut dire ça, au sein de l'université Lyon 2, d'association étudiante.
Oui, voilà. En tout cas, c'est là où elle est née.
Elle est née là, elle y est toujours. Donc, cette association a comme postulat... Enfin, moi j'avais noté quelque chose, une phrase qui avait été prononcée par peut-être un de vos adhérents, en tout cas c'était sur votre site ou votre Facebook, j'ai vu si je retrouve la phrase, ça concernait l'intersectionnalité, intersectionnalité qui n'est pas seulement une théorie, mais qui pour vous doit devenir un acte véritablement militant.
Mm-hmm.
Alors ça va être l'occasion, ma chère Lolo, peut-être d'éclaircir certains termes... Le vocabulaire que peut-être les gens ne maîtrisent pas tous, les personnes ne maîtrisent pas tous.
Les termes sociologiques.
Par exemple. Donc on va parler de l'intersectionnalité. De quoi s'agit-il? Tout le monde peut répondre, sauf Nora et Laurence, parce qu'on les connaît.
Alors juste très rapidement, après je laisserai peut-être le collectif Déraciné aussi prendre la parole dessus, parce que pour le coup...
Voilà. Puis tu nous présenteras l'association aussi, c'est bien.
Et alors très rapidement, l'intersectionnalité, avant d'être un concept sociologique, c'est un concept militant qui vient du black féminisme, de l'afroféminisme, et donc il a été construit dans les luttes. Et c'est ensuite qu'en Europe, effectivement, on s'est réapproprié ce concept. Et on l'a un peu blanchi, et quand on veut blanchir des concepts, et ben qu'est-ce qu'on fait? On le met dans les institutions qui ont la légitimité du savoir académique. Et du coup, c'est comme ça qu'il est aujourd'hui investi scientifiquement, sociologiquement, en droit aussi, dans beaucoup de disciplines, en France. Mais fort heureusement, et ben, c'est aussi un concept qui continue à vivre, et dans le cadre de la co-construction de savoir, où les associations sont parties prenantes, et ben, on arrive à refaire vivre ce concept tel qu'il devrait être normalement.
L'intersectionnalité, c'est donc quelque chose qui a été dénaturé en arrivant en France, c'est ce que tu es en train de nous dire.
Pas en France, en fait.
En Europe, on va dire.
Même pas. En fait, l'intersectionnalité, il a été dénaturé à son arrivée dans le Gender Studies. Mmh. Donc, c'est-à-dire bien en Europe, sur son propre sol, aux États-Unis, lors de la troisième vague féministe, tout qu'on situe dans les années 90. Donc, c'est là que le terme intersectionality est littéralement apparu. Il a été créé par Kimberly Crenshaw, pas Kimberly, Kimberly avec un E aigu à la fin. Et la manière dont Crenshaw explique simplement l'intersectionnalité, c'est simple, c'est étudier les paramètres qui font qu'une personne désignée subit plusieurs oppressions à cause de différentes caractéristiques de son être social. Par exemple, je vais prendre ma personne et d'autres personnes parmi les déracinés et tout. Ma personne, je suis une femme, identifiée comme femme et tout, cis, mais je suis noire, descendante d'anciennes colonies. Je suis queer, donc j'ai la discrimination de homosexualité, etc. Et surtout, je suis pauvre, j'ai la discrimination de classe. Donc, je n'ai pas qu'une seule oppression dans la société. J'en ai plusieurs. Donc, je ne peux pas me réfugier dans un système ou dans un autre système, car tous les systèmes m'oppressent et ont un impact directement sur mon être social. C'est ce que l'intersectionnalité veut dire, parce que quand il est arrivé en France, on a dit oui, c'est génial, c'est une très bonne idée pour étudier les différents paramètres et différentes oppressions des gens. Ils oublient que l'intersectionnalité, au fond, elle existait depuis très très longtemps. C'est juste qu'on l'a pas nommée. Je veux dire, par exemple, prenons Stonewall et tout. Les figures les plus emblématiques de Stonewall et tout sont des femmes, deux femmes trans, dont une, Marsha P. Thompson, qui est une femme trans noire et qu'on oublie et tout, etc.
À dessein.
Ouais.
Oublié à dessein, en fait.
Oublié à dessein.
C'est une volonté politique.
C'est une volonté. Certains l'oublient, d'autres ne l'oublient pas. Et bien sûr, ceux qui l'oublient, c'est la classe dominante.
Et même si on connaît les événements de Stonewall, si on ne se penche pas réellement sur la question, c'est un nom dont on n'entend jamais parler.
Mmh, exactement. Le nom de Marsha P. Thompson est revenu récemment avec le grand forcing, on va dire, de toutes les associations queer racisées, et surtout queer racisées noires. C'est qu'ils se sont dit pourquoi on efface quasiment l'une des figures les plus importantes. On sait pourquoi on efface, on a tous la question, la réponse, etc. Mais c'est d'une injustice, donc il y a eu un forcing récent, il y a eu des documentaires sur elle qui ont été faits et tout. Il y a toutes les communautés qui se sont dit quand même, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour raconter absolument toutes les histoires de ces gens qui ont été effacés. Et voilà, etc. En France, l'intersectionnalité fait jaser, si on peut dire, parce qu'on utilise le mot « race ». Et selon la loi française, le mot « race » n'existe pas. Sauf que dans la réalité sociale, je me prends des injures racistes parce que je suis une personne racisée, que je suis très visible dans mon ethnie. C'est-à-dire, je suis une personne certes pâle de peau, je l'admets, mais mes caractéristiques physiques sont que je suis une personne noire, donc ils m'identifient comme noire. On m'a catégorisé comme noir et on va m'oppresser en tant que noir.
Est-ce que l'intersectionnalité, elle prend obligatoirement en compte l'appartenance de la personne à un groupe ethnique, à une race ?
Oui. Elle ne prend pas que en compte ça. Elle prend en compte différents facteurs. Ça dépend comment vous voulez utiliser votre intersectionnalité. Vous partez d'un facteur. Moi, dans mes études, je pars par exemple du facteur de la race pour ma personne, mais je peux aussi partir du facteur de ma classe ou du facteur de ma sexualité ou de mon genre. Ensuite, c'est très simple. On part d'un facteur, ce sera le facteur principal, et ensuite, l'étudie avec d'autres facteurs qui oppressent en même temps cette personne. Pourquoi je suis une personne noire et pauvre ? Parce que ma race et mon origine géographique, c'est-à-dire les dom-tom, font que je suis devenu pauvre parce qu'on m'a associé. L'ancienne société coloniale qui oppressait ma région, même si elle a été abolie, il y a encore des vestiges et elle a encore un impact sur ma personne, ce qui fait que je sois pauvre à cause de l'ancienne société coloniale qui jugeait les gens sur leur couleur et qui mettait les gens dits noirs dans cette catégorie.
Donc Célia, on reviendra à toi, tu nous présenteras justement l'association Les Déracinés. Je reviens à toi Tanguy, alors aussi toujours pour des questions de sémantique, mais je voudrais aussi que tu qu'on précise, pour ceux qui n'auraient pas compris, les invisibles de Stonewall, c'est une association qui se définit comme LGBTI, queer et transféministe. Mm-hmm. On peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Voilà. Attention, il hein, faut pas marcher sur des œufs, moi. Hein. Je voudrais pas dire de conneries. Transféministe, c'est un peu ce que rejoignait peut-être Célia. Disait Célia, ça rejoint son discours. Est-ce que tu peux nous donner une définition de transféministe?
Alors, le
transféminisme.
C'est très simple, hein, ça rejoint effectivement totalement ce que dit Célia. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les femmes, par exemple, noires, se sont rendues compte que le féminisme blanc tel qu'il était constitué ne leur convenait pas, parce qu'il ne rendait pas compte de leur vécu et des oppressions qu'elles vivaient. Des femmes blanches pouvaient également oppresser des femmes noires. D'ailleurs, à titre d'exemple, un excellent film, hein, La couleur des sentiments, qui expose parfaitement ce point de vue-là. Et même de la même manière, des femmes trans, des personnes trans, sont rendues compte que le féminisme, tel qu'il était construit, tel qu'il se concevait, ne rendait pas compte des oppressions vécues par les personnes trans. Des hommes trans, par exemple, étaient considérés comme des traîtres, parce que rejoignant la classe dominante, etc. Des femmes trans étaient considérées comme suspectes parce que ce n'était pas, je cite, de vraies femmes, etc. Donc il y avait des conceptions de la féminité, une espèce d'essentialisation des discours et des formes de genre qui a été dénoncée par le transféminisme et voilà.
Donc au sein même de personnes qui subissent des oppressions pour leur ethnie, pour leurs caractéristiques diverses, leur appartenance sociale, il peut y avoir donc des antagonismes, en fait, ce que vous dites.
Absolument, d'où l'importance aussi de savoir créer des espaces et des lieux, comme un colloque, dans lequel on peut effectivement partager des éléments qui nous rapprochent, qui nous unissent, parce que quand on est victime de discrimination dans un rapport qui cherche à constituer l'égalité, ben on est capable de mettre les choses à même niveau. Et puis on essaye d'expliquer, ben là, voilà, vous êtes oppressé, vous êtes dominé dans cette situation-là, dans cette configuration-là. Mais dans cet autre, vous êtes plutôt oppresseur, etc. Et bien du coup, le fait de mettre ces rapports de discrimination, de prendre la grille de lecture de discrimination et d'égalité, permet de remettre à niveau un peu cet ensemble de choses et de créer des espaces de discussion qui permettent de construire finalement une union des luttes, une convergence des luttes, et en tout cas de co-construire ensemble des choses qui peuvent être tout à fait positives. Voilà.
Bien, alors, Célia, je reviens à toi, donc. Il y a deux choses qui m'ont frappé un petit peu, c'est le mot race. Est-ce que le mot race, bon, qui normalement, il n'y a pas de race, c'est ce qu'on dit en France.
Oui.
Toi, tu revendiques quoi ? Il y a des races parce que les autres,
si les gens
disent qu'il y a des races.
C'est parce que, juste, il y a des races, car il y a le racisme. C'est juste ça. Les gens, ils utilisent le mot ethnie. Ils utilisent le mot ethnie pour désigner ce qui n'est pas blanc. Sauf que, je suis désolé, par exemple, les Occitans et les Bretons, c'est une ethnie dans le peuple français. Alors, on a utilisé le mot race, parce que les races, les racisés, ce sont les personnes qui subissent un racisme, le racisme systémique qui leur empêche d'avoir du boulot à cause de leur nom, de leur apparence, de leur religion.
Donc ça, c'est le concept de racisé.
Exact.
Les personnes sont racisées.
Exact.
Par les autres, en fait.
Par les autres. C'est pour ça qu'une personne blanche ne peut pas être racisée. Parce que
sauf sur le continent africain où les Blancs seraient minoritaires, par exemple.
Même ça, non, parce que au fond, les Blancs, c'est dans le système raciste qui a été post-colonial, les Blancs, ils sont la classe en haut. C'est l'ethnie supérieure. Donc, sur le continent africain, prenons par exemple en Côte d'Ivoire, il y a des quartiers qui sont des ghettos bourgeois, des ghettos interdits aux personnes noires alors qu'elles vivent. C'est des expatriés blancs qui sont entre eux. Ils sont pas oppressés. Je veux dire, ils ont les meilleurs quartiers, ils ont les meilleurs endroits, ils ont les meilleures villes. Même en Afrique du Sud, ils offrent des villages interdits aux Noirs. Alors 90% de la population est noire.
Alors ça, c'est comme réflexion, c'est intéressant parce que si on prend le cas de l'Asie, de la Chine, par exemple, ça, la race blanche, donc, n'est pas une race supérieure pour les Chinois. Sauf au Japon, où il y a une tendance actuellement à l'occidentalisation allant jusqu'à la transformation des yeux bridés pour les rendre moins bridés. Il y a des chirurgies esthétiques qui existent au Japon actuellement.
C'est une sorte de nation.
Comme il existait aux États-Unis à une époque, des populations noires. Qui faisait défriser les cheveux, c'est vrai, c'est avec des produits d'ailleurs qui étaient très dangereux pour les cheveux, des produits chimiques, pour avoir les cheveux moins crépus, etc. Et par contre, en Asie, en Chine, il n'y a absolument pas ce concept. Pour la Chine, au contraire, la Chine, c'est un pays qui a une telle histoire, une telle importance.
Surtout que c'est un pays, il ne faut pas oublier que la Chine est un pays assez fermé, donc on ne peut pas s'installer comme ça. Les blancs expatriés en Afrique, c'est parce que...
Les blancs ne sont pas vus comme une race supérieure en Chine.
Non. Les Chinois, c'est la société chinoise, la société asiatique, elle est assez différente parce que surtout qu'on pense société genre en Asie et tout, on fait la référence de la Chine alors qu'il y a différentes sociétés. On oublie genre le sous-continent indien, par exemple le sous-continent indien, les gens pâles de peau qui ressemblent, qui ont des traits occidentaux, les Indiens aux yeux verts, tout ça. Ils sont vus comme très beaux, très supérieurs et tout. Il y a des trucs qui s'appellent les fair skin, les fair product et tout. Fair et tout. Moi, j'utilise des fair product parce que j'ai des cicatrices. Eux, ils utilisent ça juste pour se blanchir la peau.
Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des différences en Asie, pour finir avec ce sujet. Il y a les anciennes colonies aussi, qui n'ont pas le même rapport avec l'Occident que la Chine.
Oui, par exemple, en Asie, c'est vaste.
À part des invasions japonaises et un peu russes au nord, n'a jamais été un pays vraiment colonisé. Le Vietnam actuel, par exemple, est une ancienne colonie française qui donc déjà a un rapport différent à l'Occident que la Chine.
Disons que je ne sais pas si c'est pas du tout comparable avec l'Afrique. L'Asie et l'Afrique, les deux continents sont très vastes, mais à contrario, l'Afrique a été dans sa totalité colonisée. C'est pas le cas de l'Asie.
Si, mais il reste le même problème. C'est plus on est pâle de peau dans le monde et plus on a un nom à consonance européenne, blanche, anglo-saxonne, WAPS, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a la discrimination envers les latino-américains, mais ça c'est notre histoire, mieux on sera perçu dans le monde entier et tout, etc. Par exemple, il y a des pays, les gens ils disent « Ouais, j'aimerais aller en Corée, est-ce que tu aimerais aller en Corée avec moi ou au Japon ?» Je dis « Non, parce que je suis noir. J'ai pas envie de me faire tabasser dans la rue juste parce que je suis noir. Mon nom, il est francophone, il me sauve la vie. » Mais si j'utilise mon nom original et tout, etc., quand je voyage, j'aurais peut-être pas d'hôtel, on faudrait me servir, on me posterait et tout.
D'ailleurs, en Chine, ça me fait penser, il y a eu une exposition qui a quand même été interdite, où des photos d'enfants noirs étaient présentées à côté de photos d'animaux, en disant, pour assimiler les deux mimiques, entre guillemets, et là, ça a quand même été... Mais il faut savoir qu'en Chine, les gens à peau sombre sont mal considérés aussi.
Oui. Ça a été interdit parce qu'il y a eu un scandale international.
Il y a eu un scandale international, à juste titre.
Quand on voit que c'est quand même inquiétant encore, même de nos jours, tu prends une chanteuse comme Beyoncé, c'est quand même Beyoncé, quoi. Elle est connue dans le monde entier, elle est riche, elle a quand même un certain pouvoir, même elle, en couverture de magazine, il trouve quand même le moyen, pas de lui blanchir la peau, mais de la rendre moins noire que ce qu'elle est.
Beyoncé est une femme noire, et pendant des années, les gens, ils ont oublié ça. Quand elle a fait Lemonade, les gens, ils sont là, oui, mais cet album et tout, de quoi il parle et tout, pourquoi il est injurieux envers nous, etc., celui-là. Beyoncé a fait un album pour le peuple noir qui se faisait tirer dessus. Je veux dire, son peuple. Beyoncé vient de Houston. Beyoncé vient des quartiers populaires, comme on dit. Elle a sûrement vu ses amis se faire poursuivre par la police et tout. Elle a sûrement vu son père, son frère, n'importe qui se faire maltraiter et tout. c'est une créole, donc c'est une personne pâle de peau. Donc elle a eu cet avantage d'être pâle de peau. Et elle s'en est servie pour aider son peuple. Mais bon, quand elle a décidé de plus être la personne, la pop star noire qui entertaine tout le monde, quand elle a décidé de réclamer ses origines pour dire arrêtez de tuer mes peuples, arrêtez de tuer mes voisins et tout, on l'a réduit à ce qu'elle est, une femme noire.
D'accord, donc on va terminer, faudra qu'on nous présente quand même les déracinés, mais on va le faire après la chanson, juste pour terminer, racialisé on a vu, racisé, racialiste, alors quelle définition vous donneriez, on dit, entre racisé et racialisé déjà, quelle différence, s'il y en a une, enfin, on parle de racialisé aussi.
Enfin, il me semble que la véritable différence elle est surtout entre ceux qui emploient le terme racisé et... les antiracialistes, c'est-à-dire...
Ouais, alors déjà, racialiste, ça vient des... Voilà, il y a la fachosphère.
Il y a le terme racialiste aussi, voilà.
C'est la fachosphère qui dit « Ah, mais au fond, c'est vous les racistes parce que vous utilisez le mot « race » pour racialiser tout. » Je suis là, ben, on peut... Ben, c'est un fait qu'on veut utiliser le mot « race » parce qu'il y a du racisme dedans. Mmh. C'est juste un mot qui a été créé pour nous accuser de créer des problèmes de division de race.
Ça rejoint le racisme anti-blanc dont on entend parfois parler.
Mais ce qui est quand même relativement dingue, c'est qu'on découvre encore des trucs qui existent depuis très 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 longtemps. Sartre, par exemple. Sartre disait c'est l'antisémitisme qui fait le juif. Et de la même manière, c'est le racisme qui fait la race.
Exactement.
Et je vois pas... En gros, c'est comme si on redécouvrait des choses qui sont en fait... normalement, qui devrait aujourd'hui être de l'ordre de l'évidence.
Non, mais chaque jour, les gens découvrent des choses, des trucs. Ils disent, oh mon Dieu, mais ton pays est une ancienne colonie et tout, et vous êtes encore dans un statut de colonie. Je suis là, oui.
Alors, on va mettre la petite chanson. Enfin, oui. C'est toi qui a fait la...
La petite pause musicale.
Voilà,
musicale. Et la chanson de la fin aussi. Alors là, pour la pause, c'est Everything But The Girl, qui est un groupe qui a été créé au début des années 80. Le titre, c'est Missing... Et en fait, c'est une chanson que j'ai réentendue il y a quelques semaines, qui est sortie quand j'avais 14 ans et que j'écoutais à l'époque et que j'avais complètement oubliée. D'accord. Et ça m'a rappelé des bons souvenirs parce que j'adorais cette chanson.
D'accord.
Là, c'est le remix qui passait en France à la radio, parce qu'il y a une version dans l'album, une version studio, mais le remix est beaucoup mieux.
Ok. Alors, avant de lancer l'émission, la chanson. Avant de lancer la chanson, Bernard, tu peux mettre en fond si tu veux au début. Hein. Je voudrais dire qu'on va avoir Yoann Lemaire après, mais on reviendra dessus après. Ta chanson, c'est bon, tu peux y aller. Tu es libre, Max. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere. Back out of space, you found some better place, and I miss you. Back to deserts, miss. Thank you.
And now you've disappeared somewhere. Like out of space, you found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Allô, allô, allô. Est-ce que Yohann Lemaire est en ligne avec nous? Est-ce
oui,
qu'il est là?
Il est là.
Bien là. Il est là. En ce moment, c'est la course, Yohann, pour toi, parce que tu étais à la capitale pour défendre ton projet, un projet dont on va parler tout de suite, d'ailleurs. Donc toi, Yohann, on rappelle, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu es un footballeur dans le circuit amateur. Et il y a quelques années de cela, tu as publié un livre donc, sur ton statut, entre guillemets, donc, de footballeur homosexuel, avec tous les inconvénients que cela peut comporter. Alors déjà, donc, tu es footballeur. Bon, chacun ses défauts, non, je rigole. Mais j'adore le football aussi, alors je ne vais pas dire quand même. Je vais pas dire, je me moque un petit peu. Homosexuel, à l'époque, comment ça s'était passé en fait? Tu avais été outé ou c'est de toi-même? Tu avais dit, bon ben, pourquoi ne pas en parler?
J'en ai parlé parce qu'il y a une vie sociale hein, autour du foot. Bon, vous savez bien, dans les vestiaires, on aime bien déconner les footballeurs, hein, ça parle beaucoup. Il y a le côté, il y a la douche, alors les coéquipiers parlent de leurs copines, de leurs maîtresses, de leur plan cul, de tout ce qu'on veut. Oh, puis un jour, je me suis dit, je vais arrêter de mentir, et je vais leur dire, bah, tout simplement que, voilà, moi, c'était peut-être un mec. Et puis jusqu'au jour où, je me souviens, l'anecdote, c'était un mec qui me racontait tout le temps qu'il s'appelait la copine d'un adversaire. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, c'est peut-être ton frère, et puis au fur et à mesure, eh bien, ils ont compris que bah, je ne les connais plus. Quoi, hein. Alors là, j'étais un peu estomaqué. Parce que bon, j'étais un joueur assez viril, on va dire. Hein. J'aimais bien de mettre des coups. un joueur un peu agressif. Donc voilà, ils étaient un petit peu surpris. Ils ne pensaient pas que c'était possible. Donc voilà, ils l'ont appelé comme ça.
Alors je signale que la communication n'est pas bonne parce qu'en fait, tu t'es arrêté, tu étais en voiture, c'est ça?
Ah! Alors, vous m'entendez peut-être mal. Si vous m'entendez mal, je suis désolé. Alors,
là, on entend un peu mieux. Là.
Oui, là, on entend mieux, ouais.
Mais voilà, parce... alors, en fait, je suis dans les Ardennes.
Ah, c'est pour ça.
je sors d'une émission à Reims, je me suis arrêté sur le bord d'autoroute. Et vous savez, les Ardennes, c'est un peu compliqué. Il y a des collines, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais. Donc, je suis désolé si vous m'entendez mal. Voilà.
Parce que Yohann Lemaire, en plus, est footballeur dans les Ardennes. Il est dans le doigt des Ardennes, hein, c'est ça?
Ouais, voilà.
Voilà. Tout là-haut, au fin fond de la France. Voilà.
Donc, à côté de la Belgique.
À côté de la Belgique, ouais. Et du coup, en fait, quand les choses se sont sues, quand tu t'es outé, je dirais donc, les ennuis ont commencé pour toi.
Oui, oui, il y a un moment, il y a une minorité qui est agissante et puis qui. Qui jouent sur le fait de la différence. Pour eux, c'est une faiblesse. Alors, ils appuient là où ça fait mal. Bon. C'est le problème du footeux. Hein. On essaye d'être le plus beau, d'être le meilleur, de réduire les autres à rien. C'est le côté de la compétition. Donc oui, il y a des coéquipiers qui m'ont fait chier, très clairement. Jusqu'au jour où le coach, il a dit, moi, j'en ai rien à foutre de vos conneries. Je veux gagner le dimanche. S'ils sont homophobes, je m'en fous, c'est pas mon problème, c'est le tien. Donc voilà, en gros, c'était ça. Et il m'a même dit, ce qui est extraordinaire, les homos, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, il faut quand même, vous prenez la tolérance, apprenez à être tolérant envers des gens qui ne vous acceptent pas. Donc voilà, quand vous entendez un discours comme ça, vous avez compris que ça va être compliqué. Hein.
Alors du coup, bon, il y a eu le livre que tu as publié, parce que ce livre, tu voulais parler aussi justement de toutes les avanies qui te sont arrivées. Alors notamment, il y a eu un reportage, je crois que c'est France 3, c'était il y a 5-6 ans, peut-être 7. Devant les caméras, tu as carrément été agressé verbalement par d'autres joueurs, mais en présence des caméras.
Oui, parce que les cons moussent tout. Donc dès qu'il voit un mec qui voit une caméra, il était content. Je vais leur montrer que j'ai du courage. Évidemment, je savais qu'il était un peu virulent, mais il n'avait jamais osé me le dire avant. Parce que je crois qu'il aurait pris un bon taquet. Enfin, honnêtement, il aurait pas eu. Ça aurait été compliqué pour lui. Et là, il a profité de la caméra pour. Ben, voilà, il a cru avoir un moment de gloire. Il m'a insulté de tarlouse, de tapette, qu'il ne voulait pas jouer avec une tapette. C'était pas normal pour lui. Bon, ben voilà. C'est enregistré, et puis derrière, il faut assumer, hein, quand on dit des propos comme ça, il faut les assumer. Alors, c'était très compliqué, et c'est à partir de là que le club a décidé de me virer officiellement. Voilà. Et pour la sécurité.
Oui, d'accord.
Bon. Ouais, c'était plus pour la sienne, parce qu'honnêtement, voilà, c'était complètement incroyable d'avoir un comportement comme ça. Mais bon, c'est tout. C'est comme ça, le club m'a viré, et puis
Alors, c'est vrai que suite à ce reportage, parce que là, c'était vraiment sur la place publique, on peut le dire, on ne peut pas mieux faire à la télévision, un reportage a été réalisé par Michel Royer, qui est un documentariste, cinéaste documentariste célèbre, bien connu, donc qui s'appelait, je crois, « Foot, footballeur et homo, quel est le problème ?» hein, c'est ça dans
non.
Lequel...
non. Ah non, sport et homo.
Sport, et, ah oui, c'était pas spécialement sur le football, voilà. Mais c'était sur le sport, voilà. Dans lequel documentaire, tu avais quand même une place importante parmi d'autres, mais tu étais aussi présent.
Comme beaucoup de journalistes, comme beaucoup de réalisateurs et de journalistes, il a cherché des footballeurs homo ou des sportifs homo, et bon, il n'en a pas trouvé beaucoup. Hein. Il faut dire que dans le football, on en connaît peu, même dans les autres sports. Hein. Vous pouvez toujours chercher, vous n'avez pas en trouvé beaucoup, hein, dans le milieu professionnel, pas du tout. Dans le milieu amateur, c'est quand même compliqué. Donc il est revenu vers moi, et puis bon, ben voilà, depuis on est resté très potes. En 2010, il a quand même galéré à faire ce film parce qu'il n'a pas eu beaucoup de témoignages. Bon, ben nous, en 2017, c'est différent. Maintenant, on est dans un élan et on va essayer de faire quelque chose de bien aussi.
Voilà. Alors c'est là où on va revenir à ton projet. Alors il faut savoir que suite au reportage et aux différentes communications médiatiques qui ont été faites autour de ton cas, je dirais, quand même des personnes du milieu du football se sont intéressées à toi, puisque déjà tu as intégré le Variété Club, je ne me trompe pas, hein, tu as tapé le ballon avec des footballeurs prestigieux grâce au Variété Club.
Bien sûr, la première personne qui m'a appelé quand je me suis fait virer, c'est Jacques Vendroux.
Voilà, qui est un des fondateurs, hein. Journaliste, voilà. Sportif, fondateur du Variété Club.
Et puis voilà, le créateur du Variété Club de France, il connaît tout le monde dans le football, donc forcément ça aide. Et pendant 10 ans, pratiquement 10 ans, on en a beaucoup déconné. Il a fait une sorte de lobbying, mais en off, j'ai envie de dire, dans le vestiaire. C'est-à-dire que chaque fois que les joueurs du Variété Club de France étaient là, on en discutait, on en rigolait, on s'amuse avec ça. Mais c'est pour la déconne. Ça va jamais au-delà du mépris ou du manque de respect ou vraiment un regard malveillant. Et c'est vraiment une question d'humour pour passer un message.
Et puis,
progressivement, voilà, et puis...
Et puis, t'as été amené à côtoyer des noms prestigieux du football, quand même.
Voilà. Bah oui, forcément. On va arrêter, vous croiser un jour Carambeu, le lendemain c'est Pires, un jour c'est Zidane, un jour c'est Deschamps, un jour c'est Laurent Blanc. Donc forcément, avec les années, on en parle. Une fois, deux fois, 10 fois, on en rigole. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont mûrs.
Ils sont prêts.
Et le mieux, c'était Jean-Michel Larquet. Pour ses 70 ans, j'ai offert Perpétue, puis 2-3 magazines, garçons magazines, de la presse homo. Il a 70 ans, il était mort de rire. Il m'a dit, tu m'aurais offert ça il y a 2 ou 3 ans, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mmh. Mais là, je suis prêt. Et le mec en photo, tu crois que je pourrais essayer? Et puis il a déconné, c'était super drôle.
Alors du coup, tu t'es dit, pourquoi ne pas faire à nouveau un reportage? Donc tu as sollicité le même Michel Royer, je crois. Et donc, tu as un projet de reportage. Tu es aussi président d'une association qui s'appelle Foot Ensemble, il faut le préciser. Et tu as un projet de reportage pour lequel tu as mobilisé donc tous les people, entre guillemets, donc, que tu connais, ce qui donne du poids quand même à ton projet. Tu as été reçu par le ministère des Sports aussi, par la ministre des Sports, qui a quelque part t'a accrédité, qui t'a adoubé, on va dire. Le ministère des Sports soutient le projet. Donc parle-nous rapidement du documentaire. Qu'est-ce que ça peut être? Je crois que c'est un documentaire qui sera à la fois pédagogique et grand public. Explique-nous en deux mots.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que, étant donné que je me suis rendu compte que les gens étaient mûrs dans le milieu professionnel, l'élite du football se pose comme la question. Ils se remettent en question sur les discriminations et notamment l'homophobie. Il y a la Coupe du Monde qui arrive en Russie. On sait très bien que c'est un pays très compliqué. Il faut que la France soit exemplaire et montre des choses. Et ça, ils l'ont tous compris. Derrière, la Coupe du Monde sera au Qatar, donc c'est pas mieux. Hein. Vous faites de Russie une Qatar d'acheter, je crois que, je sais pas comment vous revenez, si vous étiez joueur de foot d'équipe de France, mais en tout cas, je sais même pas si vous revenez. Et en plus, il y a les Gay Games à Paris en août 2018. Donc le sujet va revenir sur le tapis. Les mecs sont prêts, ils veulent montrer l'exemple. Il y a 2-3 ans, ils l'auraient pas fait. Et là, eh bien, à force de leur en parler, fais-moi quelque chose. Eh bien, le projet du documentaire, c'est l'exemplarité des grands noms, des grandes stars, et on va aller montrer ce que c'est l'homophobie, aussi bien dans le milieu professionnel, dans les stades de foot, et dans le milieu amateur. Donc ça, c'est très intéressant.
Alors, simplement, on va terminer notre interview.
Ah, je vous entends mieux.
Ah bah oui, c'est possible.
Et ma voix aussi, vous l'entendez mieux?
Oui, ça va un peu mieux, oui.
Ah,
malheureusement, c'est le moment de conclure notre interview, c'est dommage.
C'est bizarre parce que j'ai moins de réseau que tout à l'heure et je vous entends mieux, ça passe mieux. Il faudra engueuler le technicien.
Voilà, c'est Bernard.
On va le foutre dehors carrément, on va changer.
Non, on n'est pas comme ça, non, on n'est pas comme au foot, on jette pas les gens quand ils sont...
Si on le vire, comme ça, à l'envers, hein.
Ouais. Alors du coup, simplement, on va rappeler donc le projet de documentaire dont tu nous as parlé. En fait, tu cherches le nerf de la guerre étant les sous, tu cherches des financements. Et tu as lancé donc ce qui s'appelle un crowdfunding en anglais. Voilà, donc une levée de fonds via Internet sur des sites spécialisés. De quel site? Tu vas nous donner une façon. Moi, je relais sur les réseaux de l'émission.
Bien, merci.
Mais tu vas rappeler quand même le site pour les auditeurs qui s'appelle.
C'est KissKissBankBank, foot et homo, l'un n'empêche pas l'autre. Il suffit de taper foot et homo sur KissKissBankBank et on trouve. En fait, c'est plus qu'un simple don défiscalisé. Je vous le rappelle parce que ça, c'est intéressant. mais c'est participer. C'est-à-dire, venez nous donner des idées, venez échanger, venez témoigner parce que c'est super important pour faire évoluer. Moi, je vous dis qu'une chose, c'est le moment. Et le football doit montrer l'exemple parce que ça va tirer les autres sports. Et ça va attirer. C'est ce qu'a de plus ringard le foot. Les joueurs de foot, souvent, excusez-moi, mais ils sont un peu cons hein, vis-à-vis des gays. Donc, si eux, le message est positif et ils vont montrer l'exemple, ça va aller mieux pour nous derrière. J'en suis persuadé.
Donc, KissKissBankBank, on rappelle, on peut encore verser des dons jusque encore 2 semaines, je crois.
Hein, puisque il faut le faire, hein, c'est pour ça.
Ah, il faut le faire, mais on va le faire.
Ah, c'est gentil.
On va le faire. Voilà.
Il faut nous dire. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. C'est ça qui est important.
D'accord. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon, puisqu'on ne lâche pas l'affaire et on relayera le maximum d'infos à l'antenne ici sur Pluriel Gay. Ben, merci, Johan, d'avoir interrompu ton voyage pour nous.
Oui, le retour à Vireux dans les Ardennes. Ben, je vous invite, hein, si vous n'avez pas peur, vous allez monter.
Ouais, ben, j'irai te voir jouer au foot si tu veux, comme ça je ferai des commentaires disgracieux, des plaisants.
Disgracieux. Non, mais parce que j'ai vieilli, j'ai déjà 35 ans et ça devient compliqué. je vous rassure, il y a beaucoup plus de mots qu'on le croit dans le foot.
Oui, ça je vais bien le croire aussi. On n'en doute pas. Très bien. Merci Johan, en tout cas, Johan Lemaire.
Merci.
Bravo pour ton projet et puis à très bientôt, j'espère. Bon retour dans les Ardennes.
Merci à vous, puis désolé pour mon manque de réseau sur mon téléphone.
C'est pas grave, c'est pas de ta faute, c'est la faute des Ardennes. Ciao. Au revoir.
Merci à vous, au revoir. Merci.
Donc voilà, on va revenir...
avec nos invités. Tu peux enlever le téléphone parce que le bip bip, on s'en fout complètement. Merci. Donc du coup, reviens avec nos invités.
Alors avant de, on va continuer à revenir sur le sujet. Je vais revenir encore à Célia. Désolé, mais après Ekaterina, je te donnerai la parole. Célia, je voudrais quand même que tu me présentes l'association que tu représentes, les Déracinés. C'est ça.
Exact. Déraciner en écriture inclusive. On est une association féministe intersectionnelle, décoloniale et LGBTIQ+, donc queer.
D'accord. Décoloniale, je rappelle, parce qu'il y a en France, en Europe, dans les anciens pays colonisateurs, même de façon latente ou non, comment dire, consciente, des préjugés qui viennent de l'époque des colonies.
Exact.
D'accord. Voilà. Maintenant, Ekaterina. Alors maintenant, je vais passer à la salve de critiques que doivent affronter les intersectionnalistes, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Alors, bon, d'abord, c'est un concept anglo-saxon à la base. Déjà, ça paraît douteux pour la France et les Républicains. Donc, ça promotionne, ça fait la promotion, ça promeut, on va dire, c'est plus français, ouais. Ça promeut le communautarisme. Ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons le multiculturalisme, nous c'est du communautarisme qui a une connotation beaucoup plus négative. Or l'intersectionnalité c'est le lit du communautarisme et ça le communautarisme en France on n'en veut pas. Ekaterina.
Il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, vous voulez que je vous parle de l'intersectionnalité. Je veux dire tout de suite que je suis pas assez bien placée pour en parler, en fait, parce que quand on parle de l'intersectionnalité, la notion de base, la notion fondamentale dans l'intersectionnalité, c'est la notion du point de vue situé, ce qu'on appelle en anglais standpoint. Standpoint view, et je suis en tant que femme blanche, je n'ai pas la légitimité d'en parler, donc de l'intersectionnalité même, parce que donc, la notion de point de vue situé, elle dit que en fait, le savoir qu'on produit, en fait, il est issu de nos expériences, en fait, il est issu de notre histoire, de vie, de notre vécu, et donc elle est construite à partir de notre positionnement social. Donc, qu'on est femme, homme, cis ou trans, qu'on est blanche, racisée, en fait, on va pas vivre la même chose. Et donc, on va produire du savoir différent. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis que, comme la notion d'intersectionnalité, c'est pas seulement le croisement ou l'intersection, en fait, on emploie différents termes. D'ailleurs, il y a beaucoup de débats déjà sur les termes, comment c'est mieux de dire imbrication, le croisement, intersection.
Convergence des luttes, est-ce que ça convient comme synonyme? Est-ce que ça pourrait être considéré comme un synonyme?
Ça peut être une conséquence, non?
C'est pas du tout le synonyme, ça c'est sûr et certain. Et même souvent quand on parle, c'est vrai que quand on parle de l'intersexualité, souvent en fait, tout de suite, elle est question de convergence de lutte. Et c'est, j'ai l'impression que en fait, souvent quand on parle de l'intersexualité, il y a peut-être de l'instrumentalisation de ce concept pour l'utiliser, pour dire au final que, ben, en fait, que ben, c'est pas si mal, en fait, on peut vivre tous ensemble, qu'on peut construire nos luttes ensemble, regardez, nous, on est aussi concernés par des discriminations, etc. Tandis que, justement, l'intersectionnalité, ça dit que dans le féminisme, il y a aussi des conflits. Dans les mouvements antiracistes, il y a aussi des divergences. Donc voilà, ça partit de ça que les femmes, bon, c'était déjà dit. Donc voilà, les femmes racisées n'étaient pas d'accord avec les féministes blanches, etc. Donc je trouve que convergence de lutte, quand on parle de l'intersectionnalité,
dans les années 70, il y a eu le problème entre le féminisme et les femmes lesbiennes qui ne se reconnaissaient pas toujours dans les mouvements féministes parce que les thèmes abordés n'étaient pas les mêmes et que les leurs aux femmes lesbiennes n'étaient pas abordés par les féministes.
Et une phrase délicieuse de Monique Wittig que je ne peux pas m'empêcher de ne pas citer, c'est les lesbiennes ne sont pas des femmes. Voilà, superbe phrase qui voulait précisément dire ce que ça voulait dire et qui marquait la rupture en fait avec ce féminisme-là.
Alors, on va revenir au communautarisme. Est-ce qu'on peut dire l'intersectionnalité? Qu'est-ce que vous pouvez répondre quand on vous dit c'est le lit du communautarisme? Alors, on sait, comme le disait Célia, que ça vient de la fachosphère, mais pas seulement. Parce qu'il ne faut pas tout réduire à la fachosphère, à l'extrême droite ou à la droite conservatrice. Il y a aussi une gauche républicaine qui reprend les mêmes
arguments. La gauche laïque.
Ouais. On pourrait peut-être dire que, du coup, la bêtise est le lit de l'extrême droite. Je ne sais pas.
Mais est-ce que c'est l'intersectionnalité égale communautarisme? Ou est-ce que c'est un truc brandi? Enfin, vous allez me dire, oui, c'est un truc brandi comme...
La question, c'est la vision du communautarisme.
C'est ce que je disais, il y a multiculturalisme à l'anglo-saxonne,
exact.
Dont on voit qu'il ne fonctionne pas toujours très bien non plus, on voit aux États-Unis, mais parce qu'il y a d'autres rapports qui s'établissent dans les populations anglo-saxonnes, c'est une autre société. Voilà. Donc non, c'est pas le début du communautarisme, c'est autre chose.
Ben, pour certains, pour certains qui sont pas d'accord avec ces luttes, oui, c'est pas du communautarisme.
Mais les camps de décolonisation où il n'y a que des femmes noires, par exemple, n'importe quoi, pour eux, c'est du communautarisme.
Ah, le mythique camp communautaire, oui. Mm-hmm. Déjà, il n'y avait pas que des femmes noires. Je veux pas dire que j'étais allé ou que j'ai des témoins, mais j'ai des témoins et j'étais allé. On était, disons qu'on était sans nos oppresseurs naturels dans la société.
Les hommes et les blancs.
Les blancs en général. Mm. Donc il y avait aussi aucune personne dite blanche européenne, femme ou homme, et tout. On avait après toutes les différentes communautés qui étaient en marge, qui étaient habituées à devoir vivre dans une société qui les oppresse et qui les déteste littéralement, qui les bat, qui les tue, tout ça, et c'était juste un moment, en fait, juste pour se retrouver, discuter entre nous de nos différents points de vue, parce qu'on a différentes manières de militer, parce qu'on n'est pas pareil, etc. On avait les femmes noires, on avait les hommes racisés, noirs, arabes, tout ça, on avait les arabes femmes, on avait des asiates femmes, on avait les queers de couleur, qui sont dans les différentes communautés, qui se sont rassemblées à l'occasion de ce camp et tout. Mais à part ça, c'était juste des vacances, hein. On n'était pas là pour renverser la République.
D'accord. Alors, autre sujet sur lequel je voudrais...
La République serait quand même bien fragile si elle était renversée juste parce que des personnes racisées se réunissent, quoi.
Enfin, non, mais ça a pris des proportions.
En vacances.
Dans une piscine. En plus. Voilà. Okay.
Mais pour finir avec les critiques, on reviendra sur cet aspect-là parce qu'il est intéressant. Il y a aussi quand même une critique qui viendrait plus des marxistes, je dirais, que l'intersectionnalité met à l'écart les rapports de classe et la lutte des classes, qui n'est plus un élément prédominant. Pour les marxistes, il faut bien comprendre, ça vous le savez, que la lutte de classe prédomine tout. Toutes les questions de lutte de classe.
Les marxistes nous ont imposé ça pendant des années.
Ça dépend.
Il faut quand même admettre qu'une femme noire riche sera moins oppressée qu'une femme noire pauvre.
Si, mais au final, elle sera réduite à quoi, une femme noire? C'est juste parce qu'elle a échappé à la condition sociale matérielle que sa couleur de peau lui imposait.
Et puis, excuse-moi, mais une femme noire riche ne peut jamais aller faire les courses sans être pris pour la bonne.
Exact. Je suis désolé. Ma famille, c'est devenu des femmes noires riches et tout. Enfin, des femmes et des hommes noirs riches, même s'ils sont en train de crever et tout. etc. Je suis désolé. On se fait suivre dans Sephora. On se fait suivre à Leclerc alors qu'on achète des pâtes. C'est juste ça. C'est juste... À chaque fois, on nous dit « Oui, mais pensez à la lutte de classe, on doit être contre le patronat et tout. » Sauf que je suis désolé, même dans les classes basses, on se chope du racisme et de l'homophobie. Et combiné à tout ça, notre santé mentale, elle doit être pas abandonnée au nom de la lutte des classes.
Et c'est vraiment très regrettable que les marxistes ne lisent pas Marx, parce que Marx disait déjà que les rapports de race étaient différents des rapports de classe. Et il expliquait que la lecture, justement, des rapports de classe ne suffisait pas à expliquer certains rapports de domination comme le racisme. Donc même Marx reconnaissait l'intérêt d'une approche intersectionnelle en réalité. Alors,
on va revenir à toi et Katerina. Tout à fait, vraiment, pour finir là-dessus, il y a aussi le concept, donc, d'après ce que vous me dites, que des populations, des catégories de personnes qui sont opprimées peuvent à nouveau peuvent à nouveau il a baissé le casque d'un seul coup.
Enfin, écoute, Bernard, écoute, tout est
il y en a marre à la maison. Donc du coup Voilà, donc, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, des personnes sont, comment dire, appartiennent à un groupe qui ont été persécutées à un moment ou qui peuvent l'être, mais qui peuvent devenir à leur tour des oppresseurs. C'est aussi cette idée-là.
C'est bien.
Par exemple, dans la communauté LGBT, on entend souvent parler de racisme à l'intérieur même de la société LGBT. Voilà.
On a un vieux dicton qui tournait à l'époque dans la communauté LGBT, de couleur et tout, qui disait « The white gay » à the hetero white men of all color people. Et ben c'est vrai et tout, parce que même si ils sont des minorités dans la société, car ils sont font partie de la communauté LGBT+, dans la communauté LGBT+, ils ont l'avantage d'être des personnes blanches, hommes ou femmes, cis. Et après, il y a les gens qui sont en dessous.
Alors, il y a eu aussi des conflits entre femmes lesbiennes et dans le cadre du militantisme qui reprochait aux hommes gays de reproduire un peu le couple traditionnel homme-femme. Il y a souvent eu des courants comme ça, des tensions.
Si, on a tous des tensions. C'est pour ça que les gens disent oui, l'intersectionnalité, c'est une sorte de convergence des luttes, etc. La question, c'est la convergence à quel prix ? C'est pris dans une convergence des luttes. La plupart du temps, on sacrifie une lutte, une identité, une population pour atteindre un objectif. Ça s'est fait avec la lutte des classes, ça s'est fait avec la lutte LGBT, etc.
Alors, non, je ne t'oublie pas, Catherine. Je m'approche de toi, en fait, mais tu ne t'en rends pas compte. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il faut se poser la question, si vous vous posez la question, parce que moi je me la pose, et beaucoup de personnes se la posent, et c'est souvent de là que partent certaines critiques, non pas celles de la fachosphère, de toutes celles qu'on a parlé, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où ça devient trop dogmatique? Et là, Tanguy, il sait très bien de quoi je veux parler, mais je vais juste évoquer, je ne vais pas évoquer ce que dont nous avons déjà parlé, le rassemblement du 30 septembre à Lyon contre la transphobie, mais je voudrais parler d'autre chose. Il y a eu l'existence samedi, marche de lutte des personnes transidentitaires et des intersexuées, dont a été exclu FLAG. Donc le FLAG, qui est donc le groupe de militants LGBTI, etc., en disant vous ne correspondez pas à nos valeurs. Alors on a eu des... Vous ne pouvez pas participer à la marche. Alors là, ça devient une sorte, ce qu'on pourrait dire, d'intolérance, finalement. Parce que des personnes de FLAG ont dit, moi, j'aurais aimé défiler en tant que FLAG, en tant que flic, dans le...
Mais il faut se rappeler qu'est-ce que les flics ont fait.
Oui, voilà. C'est ça.
C'est juste
donc,
ça.
Est-ce qu'on peut pas dire que justement ces gens qui sont à l'intérieur de la pomme, je dirais, peuvent justement faire avancer les choses de l'intérieur?
Non, parce que c'est les premiers à donner des coups. Enfin, quelque part, au bout d'un moment, s'ils humilient de la même manière, s'ils frappent de la même manière, s'ils fliquent de la même manière, s'ils oppressent les prostituées de la même manière, pourquoi ils auraient le droit de en tant qu'oppresseurs, d'être avec les oppressés? Et à quel titre ils ont le droit de dénoncer ces oppressions quand c'est eux qui les font? En fait,
c'est
ce qui
ils servent,
mais ils le servent. Au bout d'un moment, s'ils veulent être cohérents dans leur lutte, ils font pas cette profession-là.
Après, Tanguy, honnêtement, une personne qui sera un CRS, d'accord, mais quelqu'un qui est dans un bureau en train de gratter du papier, il y en a beaucoup chez les flics aussi.
Mais
ils sont des rois, ils sont des vices. Et même s'ils ne nous frappent pas dessus, ils exercent une violence morale.
Au moins ça. Mais je vois le temps passer. Mais du coup, moi, je me dis, là, ce qui est aussi important, c'est aussi pour ça qu'Ekat est là, c'est sur l'annulation du colloque.
Donc on va revenir là-dessus.
Ouais.
Parce qu'effectivement, dans l'autre sens, il y a eu aussi une grande vague de protestations contre un colloque qui devait se tenir, puisqu'il a finalement été annulé, qui s'appelait donc colloque, le colloque s'appelait Lutter contre l'islamophobie, un enjeu d'égalité, point d'interrogation. Or, il se trouve que ça a provoqué un tollé de la part de certaines personnes, parce que dans les intervenants. Alors, on a dit d'une part, il n'y a pas de contradicteur. Alors ça, vous allez répondre. Et d'autre part, on a dit, ils participent. Le CCIF, on ne va pas donner tous les sigles à ce que ça veut dire, mais le CCIF, le CRI, l'EMF, qui sont des associations musulmanes qu'on considère comme, pour certaines, ayant des discours proches des frères musulmans, etc. Et pire, il y avait une personne, un intervenant, qui était fiché S. Alors là, c'était le comble.
Avant que quelqu'un réagisse, si je peux juste réagir par rapport à la personne qui est fichée S, ce qui est quand même très intéressant, c'est que si on sait que cette personne est fichée S, c'est parce qu'elle l'a appris d'une source au gouvernement, qu'elle a porté plainte pour demander pourquoi elle était fichée S.
Exactement.
Donc c'est parce qu'elle a porté plainte qu'on sait qu'elle est fichée S. Donc elle a dénoncé ce stigmate. Il faut quand même avoir conscience de ça. Et aujourd'hui, les militants sont fichés S.
Voilà. En dehors de ça, fichée S, c'est vraiment associé au terrorisme islamiste, mais
bien sûr,
tout le monde peut être fiché S.
Et il y a les trois quarts des militants écologistes extrémistes du COP21, alors qu'ils n'avaient absolument rien fait, ont été fichés S. Des militants antiracistes commencent à être fichés S, alors qu'ils n'ont jamais eu aucun lien avec des terroristes. Ce qu'ils font, c'est juste être des éducateurs de banlieue, etc.
Alors, Ekaterina, du coup, donc ce colloque a été annulé, et toi, t'es concernée par ce fait, en fait.
Je suis concernée en tant que quelqu'un qui travaille sur les sujets des inégalités et des discriminations. Donc oui, comme d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui travaillent sur ces sujets au sein de l'université. Donc oui, on a bien sûr réagi. Donc on a écrit une tribune sur ce sujet. Donc c'était contre l'annulation de ce colloque. Et donc qui visait de défendre les libertés académiques aussi et les principes de co-construction des savoirs avec la société civile et les premiers concernés.
Mais c'est surtout la présidence de Lyon 2 de l'université qui a annulé le colloque. Sous le fait de pression, le colloque était prévu, il y a eu des pressions. Donc la présidence a donc considéré comme recevables les arguments présentés par ceux qui s'opposaient à ce colloque, parce qu'ils ont eu peur qu'il y ait trop de violence autour de cette action verbale ou autre. Qu'est-ce qu'on peut dire de la présidence à ce sujet?
Vous avez
lu le contenu.
Si vous voulez savoir la version officielle de la présidence, vous avez des communiqués donc qui sont publiés. Voilà, il y a la version officielle. Voilà.
Après, des communiqués qui se contredisent par ailleurs, hein, avec une présidence et une vice-présidence qui annoncent la tenue du colloque le 20 mai, quand la chaire inégalité et discrimination qui faisait un colloque sur émigration et réunion, cette vice-présidence qui du coup vante les mérites et le travail méthodologique scientifique de la chaire dans la co-construction des savoirs avec les associations et donc qui annonce ce colloque et qui prétend ensuite ne pas être au courant.
C'est la chaire qui l'avait proposé.
C'est pas la chaire qui l'avait proposé, c'est la vice-présidence qui est venue chercher la chaire pour l'organiser parce que la chaire est reconnue dans ses qualités scientifiques.
Retournement de veste, on annule tout.
Bah oui, parce que
derrière l'annulation aussi, en fait, il y avait la remise en cause de la légitimité aussi de ce genre d'événement. Donc c'est ça particulièrement ce qui nous a révolté parce que c'était une attente aussi à nos sujets d'études, mais aussi à la reconnaissance, à la possibilité de la reconnaissance d'une réalité sociale aussi.
La réaction malheureuse, le tweet malheureux quand même de la personne dont nous parlons, fiché S, qui était un tweet honnêtement sexiste, ne renforce-t-il pas ce que disent les opposants?
Le titre de l'article était sexiste. Il reprend le titre de l'article. Donc effectivement, la réflexion est sexiste. Après, comme on le disait, comme il me semble avoir dit au début de l'émission, ce qui est important, c'est de créer des espaces aussi entre oppressés, entre dominés, qui peuvent être aussi oppresseurs par ailleurs, de discussion pour justement trouver des moyens de comprendre les logiques en œuvre, etc. Et c'est pour ça que l'enjeu d'égalité, le regard de la question des discriminations sur ces questions-là permettait en fait de créer ces discussions-là. Et donc il y avait quelque chose de contradictoire quand même, hein, dans ce colloque. Et en plus, la notion même d'islamophobie, elle n'allait pas de soi, parce que tous allaient la discuter, la questionner, et voilà, des scientifiques, des associatifs, etc. Donc, en soi...
Faudra revenir nous parler de tout ceci une autre fois, parce que l'heure a tourné, il va falloir nous quitter. Mais bon, je mettrai quelques éléments sur le colloque aussi, sur, sur les réseaux pour ceux qui voudraient approfondir un petit peu le sujet que nous avons pu qu'évoquer à cause du temps qui nous manque un petit peu. Mmh. J'espère que les auditeurs auront compris un petit peu les enjeux dans ce qui s'est passé. Mmh. Merci d'être venu, merci Célia, merci Katerina, merci Tanguy d'être venu. Nous souhaitons te revoir peut-être à la radio dans une autre émission.
Avec plaisir.
Lolo, ma puce, vite, vite, le brunch, c'est mercredi prochain.
Mercredi prochain, le brunch, le Rainbow Brunch au Live Station organisé par moi-même, la PGL.
La PGL.
Thème GPA, PMA, adoption, coparentalité. Il y a à manger, il y a de la rigolade, il y a une avocate.
Merci Seigneur du manger.
Merci Bernard d'être venu. À bientôt.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.